Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission « La vie est un roman » et il n'échappera à personne que la voix que vous entendez actuellement n'est pas celle d'Yves Tanret, le créateur et l'animateur de cette émission, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay. Nous fêtons aujourd'hui avec cette émission les 10 ans de « La vie est un roman » et pour cet anniversaire, Yves nous a fait la malice de ne pas être là. Sache Yves qu'on pense à toi très fort et qu'on espère te revoir très vite. Pour ce 10e anniversaire, nous avons le privilège et la chance de recevoir deux auteurs, Rose Vidal et Julien de Carvillers, pour leurs deux premiers romans qui inaugurent chez Gallimard la collection Aventure, créée par Yannick Hanel. Deux premiers romans qui ouvrent donc cette collection audacieuse. Donc, on va commencer avec Dramadol de Rose Vidal. Bonjour Rose.
Bonjour.
On va voir avec vous. On va parler, mais avant de commencer à parler de votre livre, il y a une petite notice au quatrième de couverture qui dit que vous pratiquez l'écriture, le kung-fu, et que vous êtes artiste aussi.
Oui.
Quel lien vous faites entre les trois disciplines ?
J'aime bien l'idée d'avoir plusieurs casquettes. D'ailleurs, j'ai même une casquette où j'ai marqué que j'ai plusieurs casquettes. Ça me permet... en fait, quand on travaille quand on fait son métier d'une forme de création, d'un geste de création, on se retrouve parfois confronté à la difficulté qu'on doit en vivre, mais que c'est aussi un geste de création qui, par définition, peut avoir des hauts et des bas, une forme incontrôlable, des faiblesses et des moments de creux. Et ça me paraît très important de respecter ces moments de creux. Moi, j'ai toujours eu un pied... je vais mélanger les expressions, mais un pied sur une chaise ou le cul entre deux chaises, un pied sur une chaise et l'autre sur une table. Et donc je suis toujours été meilleure lorsque j'étais à différents endroits en même temps. Quand j'essaie d'être monomaniaque, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et avec le temps, en fait, cette pluralité de pratiques, je vois que ça me permet aussi de laisser reposer mes gestes. C'est un petit peu comme des outils. Ça se met à chauffer quand on les utilise beaucoup. Il y a un moment où il faut les poser. Donc, quand on doit en vivre, encore une fois, ce n'est pas forcément toujours possible. Mais quand c'est une pluralité de gestes, ça me permet de naviguer d'une à l'autre, de laisser reposer les choses d'un côté, de passer au dessin quand je sèche dans l'écriture, de me défouler au kung-fu avec mes nunchaku ou au combat quand j'ai besoin de trouver des nouvelles émotions ou de trouver des nouvelles énergies. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi.
D'accord. Alors c'est un livre un peu inclassable, hein. Un roman sans histoire est-il indiqué sur la couverture. Alors si on devait vraiment le définir, on serait tenté de le classer dans l'autofiction, mais ça ne convient pas exactement. Simple question, quelle différence établissez-vous entre l'autrice, la narratrice et l'héroïne de votre livre ?
L'héroïne étant ?
Ah, bah, à vous de me le dire.
C'est marrant parce que quand j'entends héroïne, j'entends toujours aussi la drogue en
évidemment,
même temps.
C'est sciemment que je l'ai prononcé ce mot.
Et c'est un livre qui approche effectivement la question de la drogue, ne serait-ce que dans son titre, Dramadol, qui évoque le tramadol. C'est une drogue prise au sens très large, un peu comme cette question, quelle est votre drogue préférée en fait, qu'est-ce qui vous fait fonctionner, quel est votre endroit, quel est ce qui vous touche profondément, votre addiction, votre obsession. Et aussi, donc la drogue aussi comprise comme médicament, comme remède, qu'est-ce qui vous permet de pallier, comme un palliatif. Ces distinctions-là, entre autrice, narratrice, héroïne, je vais faire une analogie en fait, avec les distinctions de genre du livre, que j'ai appelé un roman sans histoire. On a parlé de récits d'autofiction, il y a aussi l'essai, le recueil de poésie. J'ai eu envie de... Je vais repartir sur l'idée de la drogue, mais j'ai eu envie de faire un roman à spectre large. Et le spectre large étant celui des genres, c'est-à-dire aller gratouiller, taquiner les genres, un peu les embrasser aussi, les différents genres littéraires. Et en même temps, se tenir aussi à distance, c'est-à-dire d'être un peu insaisissable, de jamais les posséder tout à fait et n'être pas possédé par eux. Donc ce livre, ça fait une espèce de constellation aussi, d'approche. Et j'ai tenu à appeler ça un roman sans histoire, mais un roman quand même, parce que pour moi, ce que ça évoquait, cette question du roman, c'était aussi le plaisir de, le plaisir de la lecture. C'est-à-dire comment on se fait attraper par un roman, comment on se fait, comment on plonge dans un roman, comment on suspend aussi son incrédulité pour entrer dans un roman, comment on accepte ce que Aragon appelait la poésie, c'est-à-dire ce qui va fleurir dans la parenthèse d'un roman, ce qui va échapper même au romanesque, c'est-à-dire à la trame narrative du romanesque, à l'enchaînement des actions. Et je pense que la figure de l'autrice, de l'héroïne, de la narratrice et des personnages doivent s'entendre dans cet espace du roman pris à spectre large, c'est-à-dire comme des fantômes, des réminiscences de ce que peut être une autrice, de ce que peut être une narration, et une liberté qui était moins formelle qu'exploratoire.
Alors comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la douleur et plus encore aux antidouleurs ? Vous pensez que ça dit quelque chose de notre époque, de votre génération ?
Absolument, pas forcément de ma génération, mais je pense que c'est que la douleur est un moment de nos cultures, de nos sociétés. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait aux antidouleurs avant la douleur. La douleur, c'est pas comme ça que je me le suis formulé au départ. Je me le suis formulé parce que j'ai découvert l'existence de la crise des opioïdes qui fait rage aux États-Unis, mais pas que en fait, à travers à la fois la consommation de médicaments sous ordonnance, mais aussi de drogues. Et de drogues qui sont des opioïdes, donc la crise des opioïdes, donc des antidouleurs, en tout cas qui vont jouer sur ce système de neuronal, de transmission neuronale, qui est le système de la douleur, de comment on la reçoit, de qu'est-ce qui fait mal et de comment on apaise tout ça. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, on a un problème avec la douleur. Et on n'a pas un problème en tant qu'individu, c'est pas une somme d'individus addicts à la douleur. C'est une addiction en tant que société à des antidouleurs. Et j'ai renversé la question en me disant, mais alors qu'est-ce qui fait si mal en société pour que notre seule forme de réponse, ça soit une addiction qui en plus est mortelle? Parce que la crise des opioïdes, ne serait-ce que l'oxycontine, c'est près d'un demi-million de morts aux États-Unis.
Ouais, le taux de mortalité pour la première fois aux États-Unis a augmenté. Et c'est en grande partie à cause de la consommation d'opioïdes et notamment le fentanyl qui fait des ravages. Alors en quoi ce sujet de la douleur peut être un sujet romanesque, voire romantique ?
Oui, ça c'est une chose que j'ai commencé à explorer dans Dramadol, ce lien entre romanesque, romantisme. Et ça continue de me travailler en fait, donc je vais répondre de manière aussi exploratoire et expérimentale, parce que je n'ai pas arrêté ma pensée sur ces choses-là. Et il y a des choses qui sont toujours dures à formuler pour moi. En tout cas, il me semble que la question de la beauté de la douleur, avec ce que ça peut avoir de gothique et romantique, avait sa place dans ce livre, et avait sa place aussi parce que la douleur passe toujours par des représentations. En fait, elle s'exprime et elle se ressent à travers des représentations. C'est important de le dire comme ça parce qu'on n'y échappe pas. Et ça se passe toujours dans des représentations, qu'elles soient culturelles, que ce soit des mots, que ce soit des images. Et d'interroger un petit peu ces représentations et l'esthétique, leur esthétique, je trouve que c'est un geste politique. C'est-à-dire qu'on communique aussi, on partage à travers ces représentations. Et dans tout ça, il y a cette problématique de qu'est-ce que c'est de mettre du beau, de mettre de l'esthétique sur la douleur, sur quelque chose qu'on ressent profondément. Et comment est-ce que ces esthétiques-là peuvent parfois nous faire du bien, nous faire du mal, nous complaire dans notre douleur, ou au contraire apaiser, parce qu'il y a cette idée que j'ai mal, mais c'est une belle douleur. Ça me fait déjà me sentir un petit peu mieux. C'est une douleur noble ou romantique. En tout cas, elle peut s'inscrire dans un récit. Elle peut se raconter, elle peut se partager. Et quand je dis aussi que c'est une question d'époque, c'est que il y a beaucoup de littérature qui parle de ça aussi, de blessures, de traumas. Donc, je me dis que la douleur est un symptôme de l'époque aussi à travers ses représentations. Ça m'intéresse de les étudier. En tant que tel.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres de développement personnel qui sortent avec le concept de résilience. Et on s'adresse effectivement, il y a un large public consommateur de ces livres-là.
Absolument, mais même ne serait-ce que dans la narration romanesque aussi. Mmh. Il y a tout le développement d'une littérature qui n'est plus là pour inventer forcément des histoires, mais pour parler aussi de profondément ma douleur de là où je l'ai sentie. Et c'est important, et c'est un symptôme aussi d'une époque qui... Alors, est-ce qu'elle souffre plus ou est-ce qu'elle est plus capable de dire qu'elle souffre? Ça, c'est une question aussi qui m'intéresse.
Nietzsche disait, ce n'est pas la douleur que nous ne supportons plus, mais son absence de sens. Mm. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase de Nietzsche?
Bah, beaucoup de choses, parce que tout le travail que j'ai poursuivi dans Dramadol, c'était aussi de faire sens, pas forcément de la douleur en elle-même, en fait, parce que la douleur, elle a toujours un sens, plus ou moins, puisqu'elle a une certaine histoire. Elle n'est pas là par hasard dans nos corps, elle sert à quelque chose, ou alors elle a servi à quelque chose. Et parfois elle sert à rien, et là c'est plus difficile. Mais donc le travail de Dramadol, c'est de faire sens aussi autour de la douleur, comme pour l'envelopper. Donc de recevoir des récits de personnes qui donc, me livrent une douleur dont ils ne savent ou elles ne savent pas forcément que faire ou plus que faire, parce qu'elle a toujours été là, parce qu'elle a été trop là, parce qu'à force de se frotter à la vie, en fait... on ne sait plus trop d'où elle vient, enfin, elle a commencé à contaminer l'ensemble de la vie. Et de faire des liens avec l'écriture, par la littérature, de faire des échos, de renouveler un petit peu les images, les représentations, et puis de livrer un texte qui est donc une forme que ces personnes peuvent garder, peuvent relire, et une forme qui peut bouger, parce que je peux toujours réécrire, je peux toujours poursuivre cette histoire-là. Moi, ça me permet de rajouter du sens, de refaire du sens. Et effectivement, ça, c'est plutôt un constat, parce qu'un constat, après un pari, le pari, c'était le pari du livre, et le constat, c'est que effectivement, les personnes, les premières adresses de ce livre sont les personnes qui m'ont livré leurs histoires. Et ça les a touchées, ça leur a fait du bien, et l'une d'elles, Emmanuel, m'a dit que ça lui permettait aussi de partager. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup écrit elle-même sur cette douleur, mais que ce texte-là, qui est aussi un geste autre, c'est-à-dire le geste d'une altérité que j'incarne, lui permet de rénover aussi son adresse aux autres et de partager cette douleur-là. Et de voir aussi que ce texte-là raconte des histoires singulières, mais ces histoires singulières réactivent du lien entre les gens, parce que des personnes qui ne les ont pas vécues directement... s'y retrouvent, ils trouvent des échos, et ça fait sens.
Mais vous avez choisi délibérément, je pense, de traiter la douleur que du point de vue négatif, du point de vue, ou alors sinon d'un point de vue utilitariste, évolutionniste, mais vous n'avez jamais envisagé à un moment de traiter aussi la douleur comme dans son ambivalence ou sa positivité même. Je pense à la douleur en sport, la douleur dans le sexe, la douleur dans l'art, dans la spiritualité.
Je crois pas que j'ai réduit à la perspective évolutionniste. Il me paraissait important de la rappeler parce que je pense que c'est des choses qui ne sont pas sues et qui devraient peut-être être connues, étudiées, même enseignées très tôt. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la douleur, d'où ça vient, pourquoi on a mal, comment on fait quand on a mal, est-ce qu'on doit forcément se défier de la douleur, est-ce qu'on doit forcément n'avoir aucune douleur. C'est aussi pour ça que j'évoque les personnes qui ne souffrent pas, qui n'ont pas de douleur, qui ne ressentent pas la douleur, pour montrer aussi que le défaut de la douleur est dangereux, est un grand problème, est douloureux en fait en soi, dans une autre forme de douleur. Donc c'est ça aussi cet aspect ambivalent de la douleur, et je crois que je l'explore, notamment à travers les mots que je pose dessus. Je pense qu'il y a ça beaucoup dans Dramadol, mais en tout cas c'est dans le langage que j'utilise pour parler de la douleur, l'idée de sertir la douleur, de lui trouver une place, de savoir mettre des mots, de lui donner des mots, c'est-à-dire un peu comme un hommage. Et on revient sur cette question des représentations et de la beauté, mais je crois qu'il y a un grand soin à prendre de la douleur, et pas simplement de prendre soin parce qu'on a mal, mais prendre soin de la douleur, c'est-à-dire acter sa présence, la formuler, la former, lui mettre des mots dessus, passer du temps
ouais,
avec.
On aurait pu s'intéresser aussi au témoignage, par exemple, d'un sportif qui parlerait de sa douleur dans son effort, d'une danseuse, par exemple, de ballet classique, qui pourrait beaucoup parler de la douleur qu'elle ressent quand elle travaille. dans le sexe sans être forcément sadomaso. Dans le sexe, on sait qu'il y a le douleur et le plaisir se mêlent, se mélangent sans forcément tomber dans le sadisme. Et puis en spiritualité, il y a plein d'exercices qui visent à mortifier le corps pour pouvoir élever l'esprit. Donc il y a aussi cette dimension-là qui n'a pas été traitée, mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Vous avez très bien dit...
Si je peux répondre là-dessus,
bien sûr.
C'est aussi un livre qui s'est écrit au fil des gens. Et si ces personnes-là avaient croisé le chemin du livre, elles auraient été dedans. Et c'est un livre qui vise à se poursuivre également. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le sujet de la douleur, c'est que ça me paraît un sujet assez infini. Et qui est d'autant plus infini qu'il y a des expressions à chercher et que ces expressions sont toujours singulières. Il me semble, il y a un moment où lorsque j'ai commencé à travailler à partir des histoires d'Emmanuel, moi je pensais à un livre qui serait comme une espèce de grande fresque et je me suis dit, il faut faire de la place pour l'histoire d'Emmanuel qui est arrivée en premier et qui a changé mon livre et mes perspectives. Et cette place, il faut que ce livre... Je me suis dit, mon livre, c'est pour Emmanuel et c'est Emmanuel. Ensuite, il y a d'autres histoires qui se sont articulées à celle-ci, mais c'était aussi une balance en fait, entre de qui je parle, le temps que j'y passe. Je pense que c'est des sujets tout à fait intéressants, ce que vous évoquez.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Nous sommes en présence de Rose Vidal et de Julien de Kervilleur pour leur premier livre chez Gallimard dans la collection Aventure. Donc Rose, nous venons d'évoquer la douleur dans son ambivalence, la manière dont vous l'avez traitée, dont vous avez essayé de la cerner, de l'envelopper de sens. Quand j'ai parlé d'évolutionnisme tout à l'heure ou d'utilitarisme, c'est qu'il y a une première partie du livre qui, moi, m'a dérangé au début, c'est que vous envisagez la douleur comme un maître, comme une école aussi, comme quelque chose d'indispensable, quelque chose de nécessaire, de vital. Et puis, vous cherchez aussi à montrer comment elle fonctionne, comment on peut l'inhiber, comment on peut la soigner. Donc ça, c'était un petit côté un peu Molière. C'est-à-dire que dès qu'on réfléchit sur l'héroïne, on retombe vite dans l'idée qu'on cherche la vertu dormitive de l'opium. Et c'est, parfois, pour moi, ça me paraît un peu vain. Mais il y a quelque chose qui est passionnant à ce moment-là. C'est qu'au moment où je commençais à me dire « Ok, là, je ne suis plus », il y a un point de bascule dans le livre. C'est que vous, longtemps, au début, vous dites la douleur, c'est quelque chose qui isole, c'est quelque chose qui enferme, c'est quelque chose qui nous sépare les uns des autres. Et la narratrice, à travers les personnages qu'elle rencontre, bascule, s'ouvre à la douleur des autres, et on découvre qu'il peut y avoir une communauté de la douleur, voire une universalité de la souffrance.
Moi, je ne vois pas trop la progression dont vous parlez, parce que ce qui m'a intéressé, c'était de chapitrer ce livre... Et chaque chapitre est un peu comme une lettre. Donc ça m'importait que ça soit comme une lettre, c'est-à-dire qu'on puisse l'ouvrir, lire quelques pages dans un format qui soit accessible, et qu'on puisse aussi partager quelques pages. Et chaque chapitre correspond à un nœud de sens. Et il y a certainement une évolution au fil de ces nœuds de sens, et notamment si on lit dans l'ordre et qu'on emmagasine un petit peu les idées. Mais je n'ai pas perçu de point de bascule particulier. Il me semble que la première partie du livre est aussi conduite d'entrée de jeu par le personnage d'Emmanuel, qui n'est pas un personnage, donc, mais une personne. Mmh. Et qui a déjà une forme de communauté, ne serait-ce que dans le geste de parler de quelqu'un d'autre.
Oui, non mais... Je veux dire, c'est moins évident, parce que ça commence, j'espère que vous allez me concéder ça commence sur le fait que la douleur isole, la douleur sépare, la douleur est incommunicable. Il y a quelque chose de ça au début du livre.
Bah, je le dis parce que c'est vrai.
Et ensuite, il y a le traitement aussi avec le médecin neurologue. Donc, il y a un côté, pour le coup, technique un peu, c'est quoi physiologiquement la douleur. Ensuite, il y a effectivement ces personnages qui viennent se révéler à vous et vous confier leur douleur. Et d'un coup, il m'a semblé, en tout cas c'est ce que j'ai préféré, à peu près au milieu et à la seconde partie du roman, où la douleur peut être partagée, il y a une espèce de compassion, de l'empathie ou de la compassion. Et compassion, vous aimez l'étymologie, compassion c'est souffrir avec.
Oui, alors l'empathie pour moi c'est une question importante, et en même temps à remettre aussi à sa place, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de se référer à la douleur de l'autre. Il y a l'empathie, qui est donc effectivement le fait de ressentir, de partager le pathos, ou compatir. Et puis il y a aussi l'inférence, qui est la capacité à se représenter la douleur de l'autre, pas forcément de la ressentir. Et parfois, le pathos, c'est aussi l'empathie qui nous conduit, par exemple, à rejeter la douleur de l'autre. Moi, je pensais, j'évoque dès le début que la douleur, elle est impartageable, en même temps que je la partage. Parce que c'est pas une progression, c'est pas une découverte, c'est factuel, en fait, qu'on la ressent dans son corps. Une personne en face ne va pas la ressentir dans notre corps. C'est vraiment bon, cette idée très simple.
Si quelqu'un dit j'ai une rage de dents, c'est horrible, tu ne peux pas savoir ce que c'est, je dis bah si, moi j'ai déjà eu une rage de dents, je sais ce que c'est.
Mais ça, c'est une inférence, du coup, ouais. C'est l'inférence. Ouais. Bah, pas forcément, parce qu'il faut avoir, moi j'ai jamais eu de rage de dents par exemple.
Ah, tous les nourrissons ont des rages de dents, moi qui ai deux enfants, oui. Je peux vous le dire.
On n'a pas forcément le souvenir. Mais ce que je veux dire, c'est
que. C'est inscrit dans le corps.
C'est qu'on peut aussi projeter des souvenirs à soi.
Oui.
Sur des choses, oui, oui, qu'on ne vit pas. Mmh. Et on n'est jamais dans le corps de l'autre. Il y a différentes manières de ressentir la douleur, mmh, parce qu'elle est toujours aussi dans un contexte d'expression qui est personnel, qui est singulier, qui est social, et on n'est jamais dans le corps de l'autre. Et ça me paraît très important de dire ça, parce que c'est aussi le travail de l'écriture que d'aller se déplacer. Et c'est pour ça que je dis que ça commence dès le début, puisqu'en fait, ce travail commence d'entrée de jeu avec l'histoire d'Emmanuel. Mmh. Je ne suis pas dans son corps, et je ne savais pas cette douleur, parce qu'elle était secrète. Et c'est pas une décision.
Oui, il faut dire que là, pour le coup, c'était une situation un peu, comment dire, exceptionnelle, dramatique, qui n'arrive pas à tout le monde. Ce qui arrive à Emmanuel, c'est quand même très singulier. C'est la perte d'un enfant.
Oui.
Donc effectivement, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas comme une rage de dents ou un mot de tête.
Exactement.
Mais... Donc c'est parce que on pourrait même dire que c'est une expérience extrême de la douleur.
Je pense que oui, c'est une expérience extrême, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'elle est. Elle a différents niveaux, parce qu'il y a la douleur de la perte de l'enfant, il y a la douleur dans le dos, ça, les douleurs dans le dos, je pense qu'on en a eu, il y a la douleur de l'addiction, et il y a tout un croisement comme ça de choses, et ce qui m'intéresse justement, c'est qu'on n'a pas vécu, on n'a pas tout vécu de la vie de quelqu'un. Des fois, on a vécu des choses similaires, analogues, où on s'imagine que c'est analogue. Mais les nœuds de sens qui se font autour de ces histoires qu'on a vécues ou pas, sont des endroits où on peut se raccrocher. Alors moi, je ne vais pas forcément raccrocher les gens qui me lisent directement à la perte d'un enfant, mais à toutes les réflexions satellites qui vont tisser des petits liens avec cette question-là. Et l'idée, c'est par ces réflexions satellites d'amener les gens aussi à approcher des choses qu'ils n'ont pas vécues. Et ça, je pense que c'est un pouvoir littéraire.
À travers votre démarche, votre réflexion sur la douleur, et sous toutes ses formes, hein, physique, morale, il me semble aussi que vous cherchez beaucoup à comprendre le rapport entre le corps et l'esprit. Vous cherchez le lien entre les deux. Je me trompe ?
Oui, oui, bien sûr, mais je pense que ça, ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus vaste sur la modernité, et puis aussi sur les mots, sur le langage, sur le rapport au monde. Et c'est aussi pour approcher la douleur d'une façon très simple aussi, c'est-à-dire très simple et immédiate, parce que lorsque je dis par exemple que je m'intéresse à la douleur et que je travaille dessus, on me dit oui, mais la douleur physique ou mentale ou émotionnelle, et moi je prends le parti dès le début de rappeler cette partition-là pour dire que je travaille entre les deux, dans l'articulation entre les deux.
Donc ce lien mystérieux, parce qu'en fait c'est ça ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'est qu'au début on est sur un modèle un peu physiologique, corporel, et puis très vite vous arrivez à un mystère, et vous dites le mot deux fois mystère.
Oui, parce que je suis un peu mystique.
Oui. Donc bah oui, de toute façon le lien entre l'esprit et le corps, c'est assez mystérieux, effectivement, je veux dire... je ne connais pas un philosophe qui n'a pas réfléchi dessus. Mmh. Et même les sciences cognitives ont beau progresser, on n'a toujours pas épuisé le sujet. Mmh. Est-ce que ce n'est pas un peu le rapport à l'âme que vous cherchez ?
Ce n'est pas forcément. C'est pas... Par contre, le mystère me parle beaucoup comme notion. Et je pense qu'il y a mystère parce qu'il y a des choses qui sont, d'une certaine manière... inconnus, voire inconnaissables, et ça m'intéresse de leur faire une place aussi, un petit peu comme pour la douleur, faire une place à la douleur, mais faire une place, ça veut dire pouvoir en parler et pouvoir aussi respecter le mystère, pas forcément le remplir avec des représentations, des choses ou des projections. Et ça c'est encore une fois, c'est un vrai travail d'écriture, c'est-à-dire de c'est aussi le travail que je fais en critique d'art, par exemple. Lorsque je vois une œuvre, je suis pas là pour si j'écris sur une œuvre ou sur un ou une artiste, je vais pas expliquer son travail. Je vais pas remplir ce que je ne sais pas. Mais je dois aussi pouvoir transmettre à la personne qui me lit des notions, des choses. Et ce qui m'importe le plus, c'est de donner des clés de lecture, des possibilités de lecture, de réception, mais aussi de conserver le mystère de l'œuvre, c'est-à-dire de faire surgir un mystère ou une obscurité ou une forme un peu inaccessible.
Quelque chose d'irréductible.
Qui est quelque chose d'irréductible et quelque chose aussi de très opaque.
Et dans votre livre, j'ai l'impression que vous avez un peu évité le mot âme et vous l'avez remplacé par fantôme. Et j'ai envie de savoir, c'est quoi le gain morale, esthétique ou scientifique de remplacer le mot âme par le mot fantôme? Est-ce que l'occultisme et le gothique ont vraiment l'ont emporté?
Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez m'amener sur le terrain de l'âme, si justement, en plus, je le mets pas, j'en parle pas. Alors, les mots, moi, ils m'appellent ou ils m'appellent pas. Et je vais les chercher aussi pour ça. Et lorsqu'il y a un mot qui m'attire, je vais le chercher. Le mot fantôme m'intéresse beaucoup. Et ça rejoint aussi un petit peu ce que vous disiez sur le plaisir de la douleur, le plaisir ou la positivité qu'il peut y avoir dans la douleur. Le mot fantôme, c'est fantasma. C'est à la fois le fantôme et le fantasme. Et c'est aussi, est-ce que le fantôme, est-ce qu'il est intérieur, extérieur? Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous traverse? Toutes les représentations de la douleur dans lesquelles on ressent et exprime notre douleur, on les contient. Donc c'est aussi, en fait, on est aussi pétri d'échos, de choses qui pensent à travers nous, qui pensent à notre place.
Comme des spectres.
Un petit peu comme des spectres, mais aussi simplement culturellement, socialement. On est pétri de réflexes, de souvenirs, de hantises, de peurs, mais aussi de désirs. C'est pour ça que c'est fantasma, fantôme et fantasme.
On va faire une petite pause musicale, on va écouter un morceau, et je pense que vous allez savoir pourquoi j'ai choisi ce morceau, puisqu'il figure dans votre livre. Voilà. Time story. êtes toujours sur Aligre FM, pardon, 93.1, dans l'émission La vie est un roman de Yves Tanret, et c'est son chroniqueur fidèle qui vous parle, Frédéric Gournay. Merci Rose d'avoir répondu à toutes mes questions. On a choisi ce morceau de musique, d'après vous, pourquoi je l'ai choisi?
Bah parce qu'il apparaît dans le livre.
Mm-hmm. Il y a même une photo du chanteur.
Il y a même une photo du chanteur. D'accord. Qui s'appelle Mark Sandman.
Ok. Et le groupe s'appelle Morphine, donc ça, c'est aussi.
Ouais. Le groupe s'appelle Morphine. Et d'ailleurs, je mentionne un rappeur qui s'appelle El Morphine, qui est excellent aussi. Mm-hmm.
Et pour finir, vous pensez que la musique, ça peut être un bon remède, une bonne drogue?
Absolument. Et pour moi, ça m'aide à écrire aussi.
Merci beaucoup, Rose. Vidal,
merci à vous.
Pour votre roman, Dramadol. Et nous allons passer au deuxième roman qui est paru dans la collection Aventure chez Gallimard avec Julien de Kervillers pour son roman Les mouvements de l'armée rouge en 1945. Bonjour Julien.
Bonjour Frédéric.
Avant de parler du livre, est-ce que vous vous souvenez des premières images que vous avez eues de la Chine et vos premières impressions qui vous ont donné envie d'aller voir ce qui se passait en Orient et en Extrême-Orient?
Ma grand-mère paternelle a passé une partie de sa jeunesse en Chine avec sa sœur et ses parents, mmh. à l'époque encore des concessions, à Tianjin. Ses parents, donc mes arrière-grands-parents, ses parents sont morts là-bas. Donc c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Ma grand-mère et sa sœur ont été élevées par des bonnes sœurs à Pékin, jusqu'à ce que leur oncle vienne les chercher. Et en allant les chercher, il a ramené aussi des objets, des meubles, des vases, des estampes, etc. Et quand j'allais chez... Les quelques fois que je suis allé chez ma grand-mère, quand j'étais petit, je voyais ces meubles, notamment un Bouddha qui me faisait peur. Et par ricochet, comme ça, j'ai par exemple chez moi une commode qui vient directement de Tianjin et de Pékin.
Donc il y a une histoire familiale lié à la Chine.
Alors c'était
un petit bout.
Ouais, c'était un petit bout. Alors j'ai un nom breton et donc il y a une dispersion naturelle des bretons dans tous les pays du monde.
Oui, il faut le dire qu'ils ont été à la conquête du monde à un moment. C'était des bons marins, donc rien ne les arrêtait.
J'ai une arrière-grand-mère qui a été au Sri Lanka et donc avant d'aller en Chine, j'avais failli aller au Sri Lanka où j'avais été pris dans un établissement scolaire. Mais donc il y avait en tout cas cette connexion, même narrative en fait, et généalogique de l'étranger.
Oui, mais c'est ça. Quand on évoque l'Orient, il y a une forme de, non pas d'exotisme, mais d'étrangeté, parce que c'est des valeurs qui sont parfois opposées aux nôtres, en tout cas très différentes. Un mode de vie qu'on saisit parfois pas toujours. Est-ce que ça vous a paru le cadre idéal pour mettre vos personnages, pour les faire rentrer dans l'étrangeté?
Alors, deux choses. Il y avait d'abord effectivement cette espèce de recommencement, comme ça, génération après génération, puisque donc là j'ai parlé de ma grand-mère, mais mon grand-père paternel, lui, a vécu très longuement en Afrique. Et mon père, lui, a vécu à Madagascar pendant longtemps. Donc il y avait une sorte de réitération comme ça, familiale, du fait de partir à l'étranger pour travailler. Et d'y vivre longtemps et longuement, et d'aimer ça. Par ailleurs, donc deuxième point de la réponse, il y a eu une convergence étonnante, et c'est ce dont j'essaie de rendre compte, il y a eu une convergence étonnante entre mon intérêt naturel pour l'inquiétude et la sensation d'inquiétude que pouvait provoquer immédiatement le fait d'être en Chine.
Parce que vous êtes parti en Chine et vous avez vécu là-bas?
Je suis parti avec un contrat de travail. J'ai vécu un certain nombre d'années en Chine, effectivement.
Ouais. Ouais. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnage principal a un rapport plutôt ambivalent avec la réalité, voire contradictoire.
Donc le narrateur qui dit « je » et je vais dire « je », ça va être plus simple. Le narrateur effectivement restitue dans le cadre d'un examen dont on ne sait pas grand-chose, mais on pourrait y revenir tout à l'heure. Donc restitue dans le cadre d'un examen ce qui lui apparaît comme des souvenirs de sa vie passée en Chine. Et donc il y a un double obscurcissement de ses souvenirs, c'est que d'une part les souvenirs convoquent des événements ou des faits qui lui paraissaient à l'époque déjà problématiques, parfois incohérents, mystérieux, ainsi. Significatif, mais d'une signification qu'il ne saisit pas. Et d'autre part, l'épaisseur du temps fait que la distance de la mémoire ajoute une deuxième couche d'incertitude et d'incohérence.
Alors, on glisse lentement dans votre livre de l'étranger à l'étrangeté, de l'étrangeté au rêve, du rêve au cauchemar, et après, on n'est pas loin de la folie. Je me trompe?
Non, pas du tout. Il y a effectivement ce glissement progressif. Ça fait penser à Roguier, d'ailleurs, comme expression, mais il y a ce glissement progressif de la conscience de quelqu'un qui vient pour des raisons manifestement objective, hein, pour travailler, pour accomplir son métier, pour y vivre sereinement, et par les rencontres qu'il fait, par les événements dont il a l'impression qu'ils lui arrivent, par ce qui l'entoure, par cette espèce de brume comme ça étrange qui l'entoure, il y a une dégradation. Alors là, le narrateur ne sait, enfin, ou je ne sais jamais si c'est la réalité qui se dégrade elle-même, qui se fragilise, qui s'effrite, qui devient violente et brutale, ou si c'est sa perception à lui qui devient inquiétante et brutale. Et donc effectivement, plus ça va, plus cet examen, qui ressemble à un oral de concours en vérité plutôt au début, glisse vers quelque chose qui ressemble plutôt à un interrogatoire de police ou à un interrogatoire psychiatrique.
Exactement.
Sans qu'on sache exactement laquelle de ces trois solutions...
On ne sait pas s'il va ressortir avec un diplôme, une camisole de force ou des menottes au poignet, quoi.
Alors, pour spoiler un peu la suite de ce roman que j'ai fini d'écrire, à la fin, je me demande si l'examinateur est fou.
Ah.
Parce qu'il y a peut-être cette possibilité-là aussi.
Ça s'appelle le switch.
Exactement.
C'est un retournement total.
Alors, j'aime bien, de toute façon, les retournements, les inversions, les miroirs, les doubles. Y a une incertitude, en tout cas, permanente, ça c'est sûr. Qui est ce que j'avais éprouvé autrefois et qui est redupliqué ou multiplié par l'incertitude de mes réponses à l'examinateur.
Et c'est vrai qu'il y a une mise en miroir qui est très intéressante dans votre roman, c'est que on ne sait pas si le personnage perd pied parce qu'il se retrouve très loin de chez lui à l'étranger, ou si précisément il n'est pas en train de découvrir la vraie réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, un interlocuteur lui répond que la Chine ici, c'est la vraie réalité.
Oui, cet interlocuteur, c'est un mec bourré dans un bar qui a des tatouages partout et qui semble appartenir à quelque chose qui ressemblerait à une mafia. Et qui dit au narrateur que la Chine est l'autre nom de la réalité.
Et le mandarin, c'est la vraie langue aussi, il y a quelque part, ça, je crois. Non ?
Probablement. en tout cas, oui, vous avez parfaitement raison. C'est qu'on a l'impression que dans cet obscurcissement, il y a en même temps la levée d'un voile, qui serait le voile du véritable fonctionnement problématique de la réalité, auquel le narrateur aurait accès en étant en Chine et dans cette situation d'incompréhension fondamentale, en vérité. Le fait de ne plus rien comprendre, de cesser le fonctionnement de la raison lui permet d'accéder à quelque chose qui est beaucoup plus inquiétant, qui est le dysfonctionnement.
Ce qu'on appelle passer de l'autre côté du miroir.
Exactement. Oui, exactement.
Alors, on ne peut pas en dire tellement plus parce que ce roman n'est pas résumable. Votre éditeur le dit. C'est irrésumable. Il le dit aussi pour Rose Vidal, donc il n'y a pas de souci. Donc, on ne va pas non plus spoiler, raconter. Et puis, il n'y a pas tellement de sens à vouloir parler de l'histoire en elle-même. On va parler de la forme, si vous voulez bien. Qui est particulière, hein, qui est assez risquée, hein. C'est comme pour Rose, ce sont des romans qui désarçonnent un peu au début, qui vont perdre un peu les repères. Vous, votre roman, c'est sans ponctuation, et ça multiplie les plans d'espace, de temps, et ça entremêle les niveaux narratifs. C'est ce choix de comment ça vous est venu, ça s'est imposé tout de suite ou ça a été un long travail, cette forme?
Je suis retourné en Chine avec ma femme et ma fille voici 2 ans, pendant l'été, mes beaux-parents donc vivent dans la province du Hunan, là au centre-sud de la Chine. Et avec ma femme et ma fille, on est allé dans une petite ville très connue en Chine qui s'appelle Fengguang, ça veut dire Phoenix, qui est la ville natale d'un écrivain célèbre qui s'appelle Shen Sunwen, et qui est une ville au bord de l'eau, avec des maisons sur pilotis. Enfin, c'est bon, d'abord très beau, il y fait très chaud. Et un matin que j'étais allé au musée Shen Sunwen, il m'est arrivé quelque chose dans la rue dont je ne parle pas dans le roman, mais qui, à mon retour en France, m'a donné l'idée de répondre à la sollicitation de Yannick en écrivant un texte où le narrateur répond à un examinateur dans le cadre d'un examen. Ça m'est apparu comme ça, en fait, au fin fond de Fengguang, en Chine, sans que je sache très bien pourquoi. Uh-huh. Après, peut-être qu'il y a une explication factuelle, qui est que je suis enseignant et donc destiné à interroger des candidats tous les ans dans une salle de classe pour l'oral de bac de français. Il y a ce méli-mélo-là, je suis en même temps un peu l'examinateur.
Oui, mais pourquoi cette forme ? Là, la causalité, j'entends bien. Bon. Yannick vous demande d'écrire un texte.
Voilà,
vous décidez que c'est un examinateur, mais pourquoi la forme ? Cette forme-là, précise.
Alors, en vérité, ce qui m'intéressait, c'était de restituer comment fonctionne la parole et comment la parole, donc, qui fonctionne par association, par multiplication, par évaporation, permettrait de rendre compte de cette incertitude et de cette inquiétude. Finalement, le narrateur, ce qu'il raconte, c'est moins des événements qu'il aurait fait, des choses qu'il aurait commises lui-même, que plutôt de restituer des discours qu'on lui a adressés, des paroles qu'on lui a données sans qu'il sache très bien quoi en faire, ni pourquoi on les lui adresse. Et donc le narrateur restitue ses paroles de tous les personnages qu'il croise et qui lui parlent beaucoup, et lui-même donc répond oralement à un examinateur. Or, il me semble que dans quand Rose vous répondait tout à l'heure ou quand vous m'interrogez maintenant, on fonctionne par accumulation, par une multiplication de conjonctions de coordination qui font que la langue, effectivement, elle se continue sans la pause ponctuative qu'il y aurait dans une langue écrite.
Alors, ça fait penser évidemment à Joyce hein, ou à Beckett, mais aussi et surtout à une certaine avant-garde française des années 70, où on retrouve pas mal de maoïstes. Je pense à Solers notamment, au Guyotat. Vous avez pensé à ça, c'était intentionnel, de ces Français, ces jeunes écrivains français des années 60-70 qui se convertissent au maoïsme et qui se lancent dans une révolution formelle.
Là, il y a un switch là, à nouveau là aussi, c'est que quand j'ai des jeunes lecteurs, j'ai lu Solers, j'ai lu Guyotat et j'ai lu tout ce qui était autour du voyage de Solers avec Barthes en Chine, bon, etc.
Christeva, et voilà.
Voilà, exactement. Et puis en même temps, j'ai vraiment vécu en Chine. Et donc, vous voyez, il y a un miroir qui fait que votre question elle est valable dans les deux sens. Oui, ça, oui, cette littérature-là et ces recherches formelles-là, elles m'ont évidemment très inspiré. Et Nombre et Loi de Solaire paraît forcément inévitablement. Mm-hmm. Mais rétrospectivement, de l'autre côté de la barre de la réalité, c'est la Chine elle-même qui inspire ces lectures-là.
J'étais déjà de l'autre côté avant d'écrire.
En tout cas, j'étais à un point où j'avais plus envie d'être à ce moment-là.
On pourrait citer aussi Thomas Bernhardt hein, et Arnaud Schmitt. Arnaud Schmitt est cité trois fois dans le livre. C'est un auteur important pour vous ?
Alors, c'est d'un fait que je lisais Arnaud Schmitt quand j'étais dans cette ville qui s'appelle Qingdao, donc, dont je parle dans le roman. Je lisais Arnaud Schmitt, donc je restitue les lectures que j'avais à l'époque. Et par ailleurs, le père d'Arnaud Schmitt avait été, donc il était militaire, avait été en poste à Qingdao, puisque c'était un port de guerre allemand, et puis ensuite envahi par le Japon. Et donc, il y avait une concurrence entre ma lecture très enthousiaste d'Arnaud Schmitt, enfin, et puis en plus très, très amusé d'Arnaud Schmitt, et puis le fait que son père ait été en poste à Qingdao par ailleurs.
Alors, j'ai cherché des points communs avec le livre de Rose. Donc, le premier qui apparaît, c'est que vous êtes dépositaire de la parole des autres.
Oui, sans aucun doute, elle comme
voilà.
Moi. Oui. Oui, on reçoit la parole
Rose,
des
Rose, c'est une adresse très précise, on l'a dit, de douleur, de souffrance. Vous, c'est un peu des figures spectrales ou fantomatiques, où on ne sait pas trop si elles existent vraiment, mais en tout cas, leur parole fait mouche et atteint précisément le personnage.
Ce qui étonne le narrateur, c'est que les personnages qu'il croise, et qui sont donc soit des expatriés, soit des Chinois, qui travaillent à l'université en particulier, ne cessent de lui raconter des choses, de lui faire des récits, dont il devient donc le dépositaire, sans que le narrateur sache jamais pourquoi. Et ni comment ça s'assemble. Sinon, quelque chose qui est globalement inquiétant. Ouais.
Autre point commun avec le livre de Rose, c'est qu'il est mentionné de manière assez angoissante. La souffrance et la violence faite aux femmes. Je trouve ça, notamment l'histoire de l'aiguille, et des homicides présupposés ou supposés ou imaginaires ou réels, on ne sait pas. Mais en tout cas, les femmes subissent une violence masculine.
Il m'a semblé que malheureusement, la situation qui était faite, qui est peut-être toujours faite aux femmes en Chine, était une situation de violence. Physique, sociale, économique, universitaire aussi. Et en tant qu'enseignant, j'avais plutôt des étudiantes que des étudiants, et elles m'en faisaient le témoignage d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. C'était dur pour elles. Et c'était évident. Et ce constat-là, parce que je ne voulais pas non plus, comme vous avez remarqué, je ne veux pas avoir une langue en surplomb qui expliquerait les choses, mais ce constat-là, cette évidence douloureuse-là, Elle s'incarne dans une situation narrative où il me semble que mon voisin d'en face torture, abîme et tue sa femme.
Il faut rappeler qu'en Chine, la condition des femmes, elle est effroyable, elle est catastrophique, et même en Inde, en Afrique, certaines régions d'Afrique. On est choqué quand on est occidental et qu'on voit ce qui se passe. Je ne voulais pas vous amener sur ce thème sociétal et politique, mais en tout cas, il y a une phrase qui fait pour moi parfaitement écho au livre de Rose. Vous dites à un moment, vous écrivez « La douleur n'a pas de traduction ».
Oui, c'est ce que je dis aux étudiants, effectivement, quand ils m'interrogent sur est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser un dictionnaire ou pas pour travailler.
Je l'ai souligné, cette phrase.
Tu l'as souligné ? Oui. Vous l'avez souligné, pardon.
Je crois que je l'ai vraiment dite aux étudiants ce jour-là, il y a très longtemps.
Donc j'ai quand même trouvé pas mal de points communs entre vos deux livres. Enfin, Yannick Hanel en a trouvé sans doute beaucoup plus. Yannick Hanel, on peut le rappeler, donc c'est un écrivain assez connu, hein, qui a eu beaucoup de prix, qui est célébré et apprécié, qui est chez Gallimard et qui a créé une collection. Donc vous êtes les deux premiers auteurs de cette collection qui s'appelle Aventure avec un S à la fin. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Rose Vidal et de Julien de Kervillers dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanray, que l'on salue très chaleureusement. Quelques questions encore, Julien. Autre point commun entre vos deux livres, mais là c'est pas un point commun, on va dire c'est un point de convergence, mais qui va peut-être être après contradictoire. Il y a un certain rapport à l'image. Il me semblerait que Rose semble rechercher des images de plus en plus précises, alors que vous, Julien, vous prétendez que l'écriture repose sur son impossibilité.
J'ai toujours eu le sentiment que les images fixes, comme la peinture, comme la photographie, me mettaient dans une situation d'inquiétude. Je refusais autrefois strictement de photographier ou d'être photographié. C'était le cas d'ailleurs, et la photographie qui est en exergue du roman, c'est pas moi qui l'ai prise, mais c'est ma mère. J'avais autrefois, peut-être moins maintenant, mais j'avais autrefois l'impression que la photographie me mettait dans une situation d'inquiétude. En fixant la réalité, en arrêtant ce flux permanent de la parole, de la vie, du mouvement, de la pensée, de l'action, de l'acte, ça provoquait en moi de l'inquiétude. Et donc il me semblait que la littérature, je dis peut-être de grosses bêtises, mais c'est comme ça que je le percevais, il me semblait que la littérature, en tant que mécanique qui n'arrête pas, c'était le contraire de la fixité de l'image.
Il semblerait que le personnage, et visiblement l'auteur, ait une angoisse par rapport à la réification, par rapport à la fixité, par rapport à la mort.
Oui, le titre le dit à sa manière coquine. Le narrateur a un intérêt pour le mouvement. Alors c'est le mouvement physique, parce qu'il y a beaucoup de marches, effectivement, de déplacements dans l'espace. Mais c'est aussi évidemment le mouvement mental entre différentes scènes, entre différentes époques, entre différentes références. Cette action permanente-là, oui.
Donc la littérature décrète l'impossibilité à l'image de pouvoir exprimer quoi que ce soit. En tout cas, se prévaut d'un privilège.
Après, j'ai été lecteur de Guyotet et Solers quand j'étais jeune. J'ai également été lecteur de Maurice Blanchot.
Oui, puis on pourrait vous répondre que la peinture n'est pas une image. Et que la peinture aussi, c'est du mouvement, c'est de la musique.
Oui, non, mais oui, j'entends voilà. Bien. Je ne vous dis que ma perception.
Voilà,
vous voyez
tout à
ce
fait.
Que je veux dire.
On comprend au cœur du roman. Donc, impossibilité pour la littérature de restituer des images. La littérature vit-elle de son échec? Il semblait que vous écrivez ça quelque part. Alors
Oui, alors ça a un côté Maurice Blanchot, si vous voulez. Hein. C'est qu'effectivement, tout récit qui serait honnête avec lui-même se condamne à sa propre disparition, à son extinction, à son échec, et à rater l'objet qu'il avait ciblé.
Et pourquoi cette négativité? Alors ça, c'est probablement propre à Blanchot, mais on pourrait dire comme Plotin que le discours cherche le silence, comme la guerre cherche la paix. Est-ce que c'est difficile pour vous de se battre avec les mots?
C'est pas difficile en tant que tel, parce que les mots, ils sont là, ils sont présents, ils sont accessibles. Ce qui est difficile, c'est de faire le choix des mots qui sont capables de nommer les choses, mais sans les enfermer dans une explication qui serait... en surplomb, érudite, professorale, savante, si vous voulez. Je refuse, j'allais dire je récuse, mais j'exagère un peu, mais je refuse ce surplomb savant de la narration.
Alors que vous êtes professeur de français?
Oui.
Donc vous êtes censé expliquer les œuvres et les auteurs?
Oui, mais alors j'ai justement, d'ailleurs, en classe, parfois j'ai cette position un peu compliquée de « vous avez raison, je suis là pour assumer une parole explicative, didactique ».
De maîtrise aussi.
Oui, de maîtrise, effectivement. Il faut le prouver aux élèves, par ce biais-là aussi, qui font confiance aux enseignants. Mais plus ça va, plus je délègue aux élèves, ou plus j'essaye de déléguer aux élèves la liberté de leur propre parole et de leur propre compréhension des textes. Je supporte vraiment très mal, maintenant, aujourd'hui, des narrateurs omniscients. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'aime même que les narrateurs, mais comme celui de Rose, voilà, soient empêtrés dans leur propre narration, soient empêtrés dans leurs propres contradictions, dans leurs angoisses, dans leurs désirs, dans leurs fantasmes. Et que, par conséquent, le lecteur est mis en position de participer en direct à la narration qui s'écrit.
Les fautes nous hantent, et cela a un nom. dit à un moment le personnage ou l'auteur, on ne sait plus.
Alors, il y a toujours une corrélation, effectivement, entre le symptôme, ce qui revient, le fantôme. Rose avait dit le mot hantise qui revient plusieurs fois dans mon texte. Dans cette vision dégradée ou abîmée ou inquiète de la réalité, le narrateur aperçoit des recommencements, des réitérations. Et il finit par se dire que peut-être ce recommencement-là, il en est responsable et que ça s'appelle la faute. Parce qu'il ne l'a pas compris, et donc ça revient. Tant qu'il ne l'aura pas compris, ça finira toujours par revenir. Mais d'une manière de plus en plus douloureuse, de plus en plus inquiétante et de plus en plus sombre.
Rose, vous avez lu, j'imagine, le livre de Julien ?
Oui, d'une traite.
Vous avez pensé quoi ?
J'ai été... justement, d'une traite, j'ai été transportée par le souffle, en fait, l'écriture.
Vous avez du souffle, parce que comme il n'y a pas de ponctuation, il n'y a que des haies.
Oui.
Mais je crois que vous faites de l'apnée ou vous êtes endurante au niveau du souffle. Vous avez écrit ça quelque part.
En tout cas, je fais de l'apnée, mais involontaire.
Ah, involontaire.
Je retiens
c'est
ma
pas à la piscine.
Mais apparemment, je trouve qu'il y a une espèce de corrélation un peu inverse entre mm-hmm. le souffle qu'on peut avoir et l'écriture qu'on peut avoir. Donc, c'est-à-dire, Proust était apparemment asthmatique, il me semble.
Oui.
Enfin, voilà. Il y a une espèce d'effet inverse comme ça. Mais en tout cas, cette fièvre de l'écriture m'a transportée. Et je trouve que c'était un transport instable. C'est-à-dire, j'ai aimé, en fait, pas me faire embarquer dans une direction prédéfinie et contraignante et enfermante, mais justement de passer... À chaque moment, chaque image. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'images dans le texte parce que c'est ce que j'en garde aujourd'hui. Je l'ai lu au moment où il est sorti et aujourd'hui, je garde beaucoup d'images. C'est de ne pas tout à fait savoir où on se trouve, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans quel régime de parole ou quelle émotion, c'est-à-dire dans
même
la folie.
Même d'identité.
Dans
l'identité
réalité,
des personnages
oui,
change sans cesse.
L'identité au sens très large. Mmh. Et je trouve que cette écriture-là, elle est émancipatrice, parce qu'elle fait travailler assez profondément la réception. Les émotions aussi, il y a une forme de à la fois de confiance et de défiance simultanée. Voilà ce que j'en pense.
Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Confiance et défiance. On ne sait pas vraiment, Julien, si votre livre nous veut du bien ou nous veut du mal.
Alors,
on n'arrive pas à trancher.
Vous, à ce moment-là, le lecteur, vous le mettez, mais c'est très gentil d'ailleurs, ou c'est assez beau, vous le mettez à la même situation que moi par rapport à mon voisin. Je ne sais pas si mon voisin me veut du bien ou s'il me veut du mal, ou je ne sais pas si c'est moi qui lui en veux en le voyant tel que je le représente. En tout cas, oui. Il y a effectivement ce flottement-là, il y a une telle dégradation, une telle instabilisation de la réalité, qu'effectivement ça impacte l'état du narrateur et donc par ricochet forcément l'état du lecteur.
Vous avez lu le livre de Rose, j'imagine.
J'ai lu évidemment le livre de Rose.
Qu'est-ce que vous en avez
également.
Pensé ?
D'abord, j'en ai pensé que on n'avait pas le même âge. Et que donc, sa construction littéraire est plus proche de celle de mes élèves que de moi-même, qui a une forme de modernité immédiate, qui a davantage chez Rose que chez moi. Et que elle parle... du présent en tant que tel. Et que moi, je parle plutôt du passé. Alors, c'est pas un passé lointain, mais je parle plutôt du passé. Et donc, il y avait une forme de curiosité à cet égard, de voir comment une jeune femme très jeune s'empare de la littérature. Et en me disant que ça pourrait intéresser, je dis pas plaire, c'est un autre problème, intéresser, concerner, cerner certaines de mes élèves, d'abord.
Alors, chasser le naturel professoral et il revient vite au galop.
Oui, on s'en fait pas malheureusement.
Bon, merci beaucoup d'être venu parler de vos deux premiers livres. On va quand même rappeler le travail de Yannick Hanel chez Gallimard en ce moment. Ce n'est pas rien, il fait aussi une revue qui s'appelle Aventure. Il vient de sortir vos deux premiers romans qui sont, on peut le dire, des romans qui ne sont pas faciles, ne sont pas évidents, que c'est risqué, c'est audacieux. Ça demande un effort de la part du lecteur et c'est tout à l'honneur de ce directeur de collection. Donc voilà, je vous rappelle les deux livres. C'est Rose Vidal qui a écrit Dramadol et Julien de Kervillers qui a écrit Les mouvements de l'armée rouge en 1945. Merci beaucoup à René qui a assuré la technique derrière la vitre et qui a fait ça magnifiquement bien. On va penser très fort à Yves qui sans doute nous écoute, en tout cas on l'espère. Et à très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.